Alors, comme chaque année, je remercie donc l'association AVEC de m'inviter pour les Mardis de l'Histoire et pour vous conter cette fois-ci une histoire qui est un peu fortuite, qui est une histoire qui est issue d'une découverte faite dans une brocante le 8 mai dernier à Chignin, au fin fond d'un carton. Il y avait ces vieux registres qui sont à ma droite, que vous pourrez consulter à la fin de la conférence, et qui sont les comptes de fabrication de l'usine d'aluminium de Venton entre 1937 et 1941. Et au-delà d'une période qui est déjà peu documentée, même si on a des musées sur l'histoire de l'aluminium, on a des historiens qui se sont penchés sur ces questions, c'est une période, en fait, l'avant-guerre et puis les premières années de la collaboration qui sont peu abordées par l'histoire et qui méritent ce zoom. Et la deuxième question qui s'est posée à moi directement, c'est pourquoi ces registres ont-ils été égarés des archives ? Car effectivement, je suis allé aux archives départementales de la Savoie, où il y a une grande partie des archives de l'usine de Venton qui ont été déposées, outre l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, l'IHA. Hein. Et donc, évidemment, les deux registres qui sont présents ici sont manquants. Donc, qui a fait disparaître ces registres et pourquoi ? Hein. C'est un petit peu le début de l'enquête. Et c'est cette enquête que je vous propose de découvrir ce soir. Au fond, on ne fait que de l'histoire pour éclairer le présent. Hein, sinon, c'est le rôle social de l'historien, sinon l'histoire ne servira à rien. Les problématiques que l'histoire dont nous allons parler ce soir nous entraîne il y a 85 ans, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces problématiques sont à quelque chose près les mêmes qu'aujourd'hui. Hein, si on se prend dans le jeu des comparaisons, une période qui allie à la fois la prospérité, c'est la Troisième République, et la crise, on est dans les années 30, c'est la Grande Dépression. C'est aussi une période de réveil de tensions internationales. On ne vous cache pas que les nazis et les fascistes en Allemagne et en Italie ont une revanche à prendre contre la France. Et une période de réarmement, comme aujourd'hui, où on essaye de réarmer la nation. Aussi une période où on voit l'incapacité de cette nation à relever les défis qui lui sont opposés, le tout faisant prélude à la guerre. L'usine dont nous allons parler, qui nous relie à la Maurienne, à la France entière et même au-delà, vous allez voir aux États-Unis d'Amérique, est située au carrefour de l'Arly, du Doron de Beaufort, c'est des cours d'eau, hein, et de l'Isère, en amont d'Albertville. Vous voyez le petit point rouge, c'est l'usine de Venton. Productrice d'aluminium depuis 1906, cette usine fit partie successivement des groupes Paul Giraud, Sekem AEU, donc c'est électrochimie aciérie électrique d'Ugine, à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, Péchinet, Ugine, Kuhlmann, démantelée en 1994, vous pourrez la chercher, elle n'existe plus, il n'y a plus rien. Hein, je suis encore allé sur place dimanche, j'ai rien vu. À part l'usine hydroélectrique hein, qui est encore en place. L'usine en question, de par son importance, a participé au réarmement de la France voulu par le Front populaire, un gouvernement de gauche, dès 1936. Dans ce contexte d'accroissement des tensions internationales avec l'Allemagne, l'Italie fasciste, la poussée nationaliste espagnole aussi. Elle entrera ensuite comme pièce d'importance dans la politique de collaboration du régime de Vichy, politique issue de la défaite de juin 1940, puisque, évidemment, la France a perdu la première phase de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez. C'est dans ce cadre de la collaboration, que le 28 janvier 1941, donc on est quasiment une année après la défaite, une année après le début du régime de Vichy, après un an d'intérim, le nouveau directeur que vous voyez à gauche, qui s'appelle Alexis Bouchard, qui est donc directeur par intérim de cette usine de Venton, eh bien, ce 28 janvier 1941, il cède sa place à Louis Mignot, le célèbre directeur du site, celui qui a lancé vraiment la production du site de Venton de 1936 à 1940, puis qui le sera encore de 1941 à 1949. Vous connaissez peut-être son nom pour plusieurs raisons, Louis Mignot. Déjà pour la cité Mignot hein, à Venton, donc ce sont des bâtiments qui servaient à abriter les ouvriers qui ont été construits pendant le régime de Vichy, entre 1941 et 1943, avec piscine, tennis et autres. Hein. La cité existe toujours, je vous la montrerai en photo. Et puis aussi parce que Louis Mignot est le directeur de l'usine qui a lancé la construction du barrage de la Girotte, vous savez, dans le Beaufortin. Il s'agissait à l'époque de produire, vous voyez le barrage hein, ici, hein, de l'électricité pour l'effort de guerre nazi. Hein. Et en même temps, ce chantier a abrité un certain nombre de résistants, de réfractaires. Et Louis Mignot passe pour être un résistant à Albertville. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a gardé sa place en 1945 à la Libération comme directeur de l'usine. Mais entre-temps, il y a eu Bouchard. Et c'est ce personnage qui, pendant un an, 1940-1941, est un petit peu le mystère de notre enquête et nous amène aux registres qui ont été enlevés des archives. Donc à l'occasion de ce passage de direction de Bouchard à Mignot, qui était revenu de captivité d'Allemagne, hein, le directeur Mignot à droite, hein, que vous voyez sur l'image, a été fait prisonnier, était mobilisé, prisonnier, il est revenu. Une des pièces les plus importantes figurant aux archives de l'usine a disparu. Ce sont les comptes de production, les voici, du 1er janvier 1937 au 31 janvier 1941. Il s'agit de deux registres papier. Le second s'arrête subitement le 29 janvier. Le total de toute la production, ce sont des totaux mensuels qui sont faits, je vous montrerai comment c'était construit, hein, n'a même pas été calculé. Comme si le personnage s'était enfui, il n'avait même pas eu le temps avec les registres, il n'a pas calculé les totaux du mois de production d'aluminium. Et voici que ces documents ressurgissent 85 ans après sur une brocante, probablement conservés dans un grenier pendant des années. Et plus curieux encore, ils ont servi d'herbier, comme vous voyez. Donc j'ai dû méticuleusement décoller toutes les feuilles pour pouvoir lire ce qu'il y avait dessous. Comme si on avait voulu, par ce moyen, dissimuler ces registres, par exemple dans une chambre d'enfant, hein, l'herbier fait par un enfant dans cette période et des registres bien cachés. Alors pour quelles raisons les comptes de fabrication de l'usine ont-ils été subtilisés? Devait-on les cacher? Quels secrets peuvent-ils renfermer dans cette période de troubles, de marche à la guerre et de collaboration? Peut-on y déceler les faiblesses qui ont conduit la République au désastre? Ou au contraire, y voir un extraordinaire élan précoce patriotique? Que nous apprennent-ils des hommes et de leurs choix sur cette période? Je vous propose donc de découvrir ce soir comment fonctionnait une usine d'aluminium au seuil de la guerre, au profit de l'effort de guerre, et de résoudre par de belles hypothèses, car tout n'est pas vérifiable évidemment, les raisons pour lesquelles les comptes ont été cachés si longtemps. Et pour comprendre l'affaire, en trois étapes, on verra d'abord les origines du site jusqu'à 1936, c'est-à-dire la période de mise en marche vraiment efficace de rentabilité de l'usine. Vantons l'usine stratégique de l'effort de guerre avant la défaite, et puis la période de la collaboration qui nous amène à la disparition des registres. Mais tout est lié, vous allez voir, dans une enquête hein, assez complexe. Alors commençons par les origines du site. Rapidement, hein. Il s'agit d'un site qui est typique de la seconde révolution industrielle. Vous savez, la fin du 19e siècle, tous ces sites alpins assis sur des chutes hydroélectriques, et qui ont, à la suite d'Aristide Bergès, l'inventeur des chutes hydromécaniques puis hydroélectriques, hein, à Domaine, dans l'Isère, tous ces sites alpins qui ont repris le modèle pour ensuite avoir de l'énergie peu coûteuse et produire en très grande quantité pour la société industrielle naissante. Donc l'usine de Venton est un site typique de la seconde révolution industrielle. Elle est assise sur la chute hydroélectrique du Doron de Beaufort, donc c'est la vallée qui vient du Beaufortin, hein. Et elle naît en 1888 de l'industriel Armand Aubry, qui souhaitait, comme l'avait fait Aristide Bergès au départ, hein, y faire de la pâte à papier, hein, la trituration du bois pour faire de la pâte à papier. Quand celui-ci, faute de rentabilité, déménage en 1906 à Rouen, la société électrométallurgique du Sud-Est rachète la chute d'eau. Et de la petite usine que vous voyez à gauche, celle qui fume là, hein, vont naître, à partir de 1906, les établissements, vous voyez à droite, qui constituent les usines métallurgiques. Hein, parce que Venton, c'était jusqu'à 4 usines différentes sur un même site, vous allez voir. Alors cette société électrométallurgique du Sud-Est va transformer le site pour la fabrication des anodes et l'électrolyse de l'aluminium, selon les procédés révolutionnaires inventés par Paul Héroux, en Maurienne, Paul Héroux qui a donné son nom au lycée de Saint-Jean, et qui tombe alors dans le domaine public. 1906, c'est au moment où ça tombe dans le domaine public, donc tout le monde se met à faire de l'aluminium sur le procédé Héroux, il y a tout un tas de sociétés qui se créent. Cette société fit même construire l'usine hydroélectrique de Kej. Elle avait 42 cuves de 5000 ampères, on passe sur les détails. Hein. Mais cette usine n'était pas rentable, elle ne produisait que 30 tonnes d'aluminium par an. Et les installations furent vendues le 8 avril 1911 à la société Paul Giraud d'Ugine, qui en fit une annexe de l'usine d'Ugine elle-même. Alors Paul Giraud, qui est un industriel suisse touche à tout, un ingénieur spécialisé dans les ferroalliages, avait racheté le site surtout pour l'électricité, avoir de l'électricité. Et ça n'intéresse pas trop, il le loue pendant la Première Guerre mondiale à Peugeot pour fabriquer des obus, c'est ce que, l'image que vous voyez en bas, ici, pendant la Grande Guerre. Et il dédiera le site en 1920 à la production de carbure de silicium, le carborundum, qui sert d'abrasif. C'est un abrasif qu'on utilisait ou qu'on utilisait dans les ciments pour les durcir. La petite unité de production, donc il met l'usine de carborundum à gauche, là où ça fume, là où il y avait les papeteries, fonctionnera jusqu'en 1947. C'est l'usine de gauche. Alors, le problème du site restait sa dépendance aux caprices de l'eau. Le Doron est en effet tempétueux au printemps, donc on ne peut pas produire de l'électricité. Il est asséché l'été ou l'hiver. Et faute d'un réservoir régulant le débit, ça sera le barrage de la Girotte qu'on construira pour réguler le débit du Doron, Paul Giraud comptait sur l'interconnexion des sites de production électrique pour produire un petit peu à cet endroit-là. Donc on commence à mettre des lignes électriques partout en Savoie. Et donc en 1921, pour ce faire, il a fusionné la société d'électrochimie qui avait le site avec les aciéries, les établissements, les aciéries d'Ugine. Et c'est la création de la CECEMAEU, la société d'électrochimie, d'électrométallurgique et des aciéries électriques d'Ugine, qui regroupait un ensemble de sites qui ont fait la fortune de Paul Giraud. Et en 1926, à cet endroit-là, eh bien, on va créer la première série sérieuse de cuves d'aluminium, cuves rondes à l'époque, de 30 000 ampères, par électrolyse. Alors cette usine, elle va s'appeler l'usine de Venton numéro 1, donc c'est celle de droite que vous voyez sur la carte postale des années 20, qui a été colorisée, l'usine de Venton 1, pour la distinguer de l'usine de carbure de silicium qui est à côté. Le procédé déjà ancien, ces cuves, c'est ce qu'on utilisait rondes, c'est ce qu'on utilisait à Calypso, qu'on a utilisé à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce n'était pas rentable et ça ne résista pas à la crise économique. 1930, c'est la Grande Dépression, vous savez, en Amérique, il y a la crise boursière, la crise économique. Et donc, la tonne d'aluminium passe en dessous des 80 francs au lieu des 300. La série est arrêtée en 1931 et l'usine est fermée à ce moment-là. Et donc, pour qu'il y ait redémarrage du site, que le site intéresse à nouveau, il faut deux ingrédients. Il faut déjà que les prix de l'aluminium repartent à la hausse. Donc il faut la fin de la Grande Dépression, 1935, en France. Et puis il faut un élan politique. Et cet élan politique, il est donné en France par le Front Populaire. Donc le redémarrage avec le Front Populaire qui n'est pas un industriel, ce sont des hommes politiques, mais qui vont stimuler la demande. Alors bien que la décision de remettre en service la production de 1935, cette remise en route est consécutive à l'action politique du Front populaire de Léon Blum, célèbre gouvernement d'alliance de gauche qui gagne les élections en avril 1936 et engage le pays sur la voie du réarmement. En effet, dans l'année 1936, les deux lurons que vous voyez là, tout sourire, ont formé l'axe Rome-Berlin et leur objectif est de renverser les démocraties. Alors, Mussolini est vexé, après la conquête de l'Éthiopie, il a été mis au banc des nations. Et puis évidemment, les Allemands n'ont qu'une revanche à prendre sur la Première Guerre mondiale. Et donc, il faut faire produire de l'aluminium le plus vite possible, car l'aluminium, en effet, c'est le métal de la guerre. Voici une brochure de l'époque, Aluminium Métal Français de 1936. On en fait tout ce que vous voyez là, on en fait des camions, de l'automobile, des moteurs, des voitures, des avions, des trains, des bicyclettes en duralumin pour gagner le Tour de France. Des mobiliers, des toitures, on fait tout. C'est le métal révolutionnaire de l'époque. Et donc, pour vous en convaincre, allez visiter le musée de l'aluminium à Saint-Michel-de-Maurienne. Il est plein de ces objets révolutionnaires de cette période-là. À l'époque, il faut savoir que la production d'aluminium était hyper concentrée. Il y avait deux sociétés, donc la société de Paul Giraud, la CECEM à Venton, et Alef Roche Camargue, celle qu'on avait à Saint-Jean-de-Maurienne, qui régnait sur l'aluminium. Et en plus de ça, ces sociétés étaient dans un cartel, c'est-à-dire une alliance commerciale, qui s'appelait depuis 1914 l'aluminium français et qui s'entendait pour réguler les productions, les prix. C'était quelque chose de très verrouillé par quelques sociétés industrielles qui avaient concentré. C'est l'effet de la crise aussi. Voilà. Alors ces sociétés, évidemment, elles vont intéresser l'État français puisque face à la menace allemande, le Front populaire, par la voix de son ministre de l'air et de l'armement, le chambérien Pierre Cotte, hein, vous connaissez peut-être Pierre Cotte, hein, il est mort à Coise, Saint-Jean-Pied-Gautier, en 1971, hein, il y a une cinquantaine d'années, décide de passer des commandes massives d'avions militaires modernisés et de métaux. Alors surtout pour les avions, puisque bon, j'ai mis l'avion, les bicyclettes en duralumin au milieu, hein, mais le duralumin, c'est le métal fait à partir de cuivre et d'aluminium, hein, qui permettait de remplacer les structures en bois et en toile des avions et de les rendre beaucoup plus résistants aux tirs de l'adversaire et évidemment pour des plus longs rayons d'action. Donc cet alliage, le duralumin, permettait la construction du principal chasseur que vous voyez à l'écran, hein, le chasseur français, qui était le Morane Saulnier 406, entièrement, le premier chasseur entièrement métallique de l'histoire de l'aviation, avant que les Allemands reprennent l'idée, hein, et nous surpassent là-dedans. Pierre Cotte nationalise une grande partie des usines aéronautiques pour créer les sociétés nationales de l'aéronautique, donc la SNA, hein, et de ce fait devient le principal client prioritaire et stratégique de l'industrie de l'aluminium. Toutefois, l'aluminium n'est pas nationalisé, hein, on va simplement stimuler par des commandes les entreprises. C'est ainsi que la SECEM, donc la société de Venton, est confortée dans son choix de moderniser l'usine de Venton 1. Et entre janvier et août 1936, vous voyez ici, la création de 28 cuves de type Soderberg de 25 000 ampères à la place des anciennes vont être mises en service, ainsi qu'une machine et un four tournant, une machine pour le lingotage. La première coulée aura lieu le 7 septembre 1936. Un mois plus tard éclataient les grandes grèves du Front populaire. C'est un tournant productiviste pour répondre au marché étatique. En effet, regardez bien, les cuves Soderberg sont des cuves qui sont maintenant rectangulaires et non rondes. Elles font jusqu'à 2,5 à 3 mètres de côté. Et à la différence de l'ancien procédé, leur carcasse constitue désormais le principal pôle électrique, puisque l'électrolyse, c'est le principe de faire passer de l'électricité à l'intérieur d'une cuve. Hein. Et donc, la carcasse constitue la cathode. Hein, c'est-à-dire que la baignoire, si vous voulez, est la cathode. Hein. Et l'anode, qui amène l'autre pôle de votre pile, hein, est composé de barres de fer, de braies, tout ça dans des tôles d'aluminium, hein, et on le plonge dans le bain, qui est un bain de fluorure fondue et d'alumine, où on rajoute la bauxite en poudre, hein, qu'on appelle l'alumine. Quand on envoie le courant à l'intérieur de cette baignoire, hein, que vous voyez ici, le métal se dépose sur la cathode, donc au fond de la cuve. Et ensuite, il suffit de faire un petit trou et puis de le faire couler, hein, quand il a la bonne température. Alors, quand est-ce qu'on sait que le métal est fait, hein ? C'est très simple. C'est l'électrolyse. Hein. En marche normale, la tension dans la cuve ne dépasse pas 5 volts. Alors, il y a 25 000 ampères, hein, mais la tension, c'est que 5 volts à l'intérieur, parce que la processus d'électrolyse est en marche. Et ça, c'est insuffisant pour éclairer une ampoule. Hein, votre ampoule, elle s'éclaire à 100 volts, à peu près, hein, dans votre pièce. Quand l'alumine a tout disparu du bain, la tension augmente et elle vient à 100 volts à l'intérieur du bain, et donc ça fait passer le courant, et donc l'ampoule s'éclaire au-dessus de la cuve. On dit que la cuve brûle. Alors après, il y a tout un tas d'opérations dont je ne vais pas m'hazarder à vous donner les détails, hein, mais en gros, hein, l'aluminium est formé, et il faut ensuite, aux ouvriers, aller chercher cet aluminium. Et une cuve, comme vous voyez ici, de 25 000 ampères, produisait à l'époque 170 kg de métal par jour. Donc on va multiplier ces cuves pour essayer d'avoir des tonnes à la journée. Hein. On met ensuite le métal pendant 2 jours dans des mélangeurs, des décanteurs électriques. On fait varier sa pureté chimique à la demande. Et on obtient, dans les comptes que vous voyez ici, alors la production de barres, la production d'équerre, ça sera pour les avions, de l'aluminium qui est de mauvaise qualité, qu'on appelle l'aluminium ferreux, donc c'est le 98%, c'est-à-dire 98% d'aluminium et 2% de métaux, dont du fer. Et puis ensuite, vous voyez, 99, 99,5, 99,6, 99,7, jusqu'à 99,9, l'aluminium le plus pur dont on se servait comme fondant en métallurgie pour renforcer la dureté des aciers. Et ça, c'est très important au moment où on va faire des plaques de blindage pour les chars, par exemple. Il faut renforcer la dureté des aciers, donc il faut mettre un petit pourcentage d'aluminium très pur dedans, et c'est le but de ces productions. Il faut 2 tonnes d'alumine pour 1 tonne de métal. Et donc, vous voyez, on peut commencer à passer avec la cuve Soderberg, surtout monter en série, hein, à des productions qui vont commencer à des productions proprement industrielles. Alors, qui sont les premiers acheteurs de cette période qu'on voit dans les registres? Là, vous avez les totaux, puis après, vous avez les commandes sur la droite. Donc, les premiers acheteurs, quand on démarre en 1937, se trouvent face à une production qui avoisine les 125 tonnes d'aluminium par mois. Alors, on produit 125 tonnes d'aluminium, ce qui est très honorable. Et cela jusqu'au mois de novembre 1938. Alors, si je me suis amusé à regarder tous les comptes, on démarre en 1937 tout en bas, vous voyez, et on arrive en 1941 tout en haut. Et donc, tout ce que vous avez en bleu, c'est la production en kilos. Donc en bas, on voit 200 000 kilos, ça fait 200 tonnes, 300 tonnes, 400, 500 tonnes. Et puis, tout ce qui est en rouge, c'est l'expédition. Donc, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans de grandes observations pour voir qu'il y a trois périodes. Il y a avant 1938, le moment où il y aura l'effort de guerre, où on produit 125 tonnes et on en exporte environ 100 par mois. On fait beaucoup de stocks. Il y a 1938, où après, on va produire jusqu'à 400 tonnes par mois, jusqu'à 500 tonnes les meilleurs mois. Et on va en exporter parfois plus, parce qu'on va écouler le stock, parce qu'il y a de la demande. Et puis, il y a la période un peu bigarrée à la fin, vous voyez, là où la production ou l'exportation s'effondre. Ça, c'est la défaite de 1940. Et puis après, il y a des choses curieuses, il y a d'énormes exportations qui sont faites. Et justement, il va falloir identifier où c'est parti, tout cet aluminium, qui était en fait sur le carreau, hein, qui a été stocké et voilà, qui a complètement disparu. Trois périodes. Donc nous, là, on parle de la première et on va parler des premiers clients. Donc à partir de décembre 1937, les premiers clients sont ceux qui d'abord utilisent des lingots. Voici la fonderie de lingots de Venton. Donc ces lingots, comme je l'ai dit, sont destinés à être. Ils sont spéciaux, ils font un kilo. Ils ont. Alors je n'en ai pas retrouvé en photo, malheureusement. Hein. Vous imaginez un petit lingot comme Monsieur Rérol a apporté. Il hein, faut imaginer d'un kilo d'aluminium, pour vous le montrer à la fin de la conférence. Mais avec une étoile, un trou en forme d'étoile dedans. Et c'était pour mettre au bout d'une perche une perche métallique, une perche en acier, et aller plonger ça dans les bains d'acier pour les renforcer. Donc c'était destiné comme, voilà, à renforcer comment dire, la dureté des aciers. Il y a d'autres lingots destinés ensuite au laminoir, des billettes, des plaques qui sont envoyées. Et puis on voit apparaître à partir de 1937, le début de l'année 37, voilà, si ça a bien passé, la construction d'équerres. Donc les équerres, vous en avez une au milieu à droite, hein, et vous voyez à quoi ça sert? Ben, ça sert à construire des avions. Hein, mis bout à bout, toutes ces équerres fabriquent une carcasse d'avion en aluminium, ou en duralumin. Et dessous, vous avez le bloc 152, donc, qui était le principal avion qui était construit avec les équerres d'usine, hein, qui était construit donc, dans des ateliers, soit qui étaient à Toulouse, soit ces ateliers étaient dans la région parisienne. Alors, tous ces équerres étaient en duralumin, un alliage très résistant, et on faisait toutes les nervures d'ailes avec. Alors, les commandes de l'aviation militaire s'observent dans les faits parce que la part d'aluminium courant pour faire ces équerres, vous voyez, là je me suis amusé à calculer selon la production en total, hein, vous avez comment dire, la part, en pourcentage, la part de l'aluminium courant. Je me suis aperçu qu'il y a une petite faute sur le côté, ce n'est pas 1,5, mais c'est 15, 20, 25%. La part d'aluminium du courant ne fait voilà, varie, et puis donc on est dans les années 30 et on voit qu'elle est assez importante, donc c'est des petits pics que vous avez sur la gauche. Puis on voit la fabrication de virolles. Hein, donc ces virolles, elles servent dans de nombreuses pièces soit liées aux soldats, soit liées au câblage à l'intérieur des avions. Vous avez des virolles pour les câbles, en bas à gauche, ou vous avez aussi des virolles en aluminium qui sont utilisées pour les grenades. Hein, ou encore pour les cantines, les gourdes. Il y a tout un tas de viroles calibrées, très filées, qui sont faites dans les ateliers annexes à Venton. Alors, suivons les expéditions. Où est-ce que ça va, tout ça? Le client principal, ce sont les laminoirs de Lescot, que vous avez en haut à droite, donc, qui sont situés en Belgique. Les blocs de métaux bruts sont transformés en tôle, en panneaux, en profilés, pour l'emboutissage. Ça, c'est le client principal, même avant les commandes militaires. Mais il y a des commandes militaires dans les laminoirs de Lescot. On voit aussi partir le 30 juillet 1938 20 tonnes de bars pour les tréfileries et laminoirs du Havre, donc les TLH, donc une entreprise à l'époque très célèbre, dont vous avez une action en haut à gauche, un fleuron de l'industrie métallurgique française de 1883, qui transformait le cuivre, le laiton, l'acier, l'aluminium, et qui fabriquait des câbles non ferreux pour la marine et les avions. fait des câbles légers. Hein. Outre les autres ateliers un peu artisanaux, comme ceux de Livry ou de la rue Barreau à Paris, ce qui rappelle la faiblesse de la grande industrie de la Troisième République, hein. Il faut savoir que la France était un pays de petites unités de production, encore pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le cas, on voit figurer des commandes d'usines sœurs ou concurrentes. Alors si on regarde, par exemple, on a les usines de Lannemezan, qui viennent d'ouvrir en juillet 1938 et qui appartiennent à la Sekem. Alors pourquoi est allé ouvrir des usines à Lannemezan ? Parce qu'en 1938, le gouvernement a dit « des usines d'aluminium dans les Alpes, c'est trop proche de l'Italie, et donc il va falloir ouvrir des usines d'aluminium très loin du front pour éviter les bombardements, hein, en prévision de la guerre ». Donc on a ouvert cette usine. Elle avait besoin à l'époque de billettes et de lingots pour démarrer, les fondre en fait à l'intérieur de ses fours, démarrer et équilibrer ses fours. Hein, on parle de faire les fonds de cuve dans ce genre de choses. D'autres expéditions sont faites vers l'usine de Prémont en Maurienne. Alors ça semble bizarre, mais ils s'envoient de l'aluminium entre usines. Qui outre les chlorates, il faut savoir, cette usine produisait de l'aluminium sur procédé Héroux. Et dans le cas de Prémont, les expéditions de Venton, qui étaient surtout l'hiver, servaient à honorer des commandes quand le débit de l'Arc ne permettait plus de produire. C'est-à-dire l'usine de Prémont s'était engagée à fournir de l'aluminium à ses clients, mais comme elle ne pouvait pas produire assez d'aluminium s'il n'y a pas assez d'eau pour faire tourner les turbines, eh bien, elle faisait venir de l'aluminium de Venton qu'ensuite elle réexpédiait sur sa raison sociale. Hein. Plus étonnant, des commandes de concurrents. Alefroche-Camargue pour l'usine AFC de Chambéry, qui fabriquait du duralumin, mais il n'y a pas assez d'aluminium. Ou les exportations de l'aluminium français vers l'Allemagne. Vers 1938, c'était encore possible. On voit un certain nombre, environ entre 1500 et 2000 tonnes, qui partent vers l'Allemagne dans l'année 1938. Il y en a encore le 30 novembre 1938. 30 novembre 1938, hein, on est à 6 mois de la guerre à peu près. Hein, on a encore 400 tonnes qui partent pour Francfort. C'est-à-dire on donne aux Allemands l'aluminium nécessaire pour fabriquer les Stuka, hein, qui vont venir nous taper dessus quelques mois plus tard. Alors vous voyez, donc le démarrage se fait dans le cadre de cette initiative du réarmement du Front populaire. Et puis il y a l'accélération, c'est la deuxième phase, 1938. Venton devient une usine stratégique de l'effort de guerre français. Alors ça s'appelle la création de Venton 2, donc c'est les bâtiments que vous avez peut-être tous connus qui étaient au bord de la route, hein. Venton 2 qui est un produit de la défense nationale. Alors l'aggravation des tensions, la signature du pacte d'acier, vous savez qu'il y a eu deux accords hein, dans les totalitarismes. Il y a le premier accord, c'est l'axe Rome-Berlin, 1936. Puis après, il y a le pacte d'acier en 1938, à la suite de la visite d'Hitler à Rome en mai 1938. Il y a un nouvel accord de coopération militaire et des accords secrets qui prévoient en fait l'attaque de la France pour l'année 39 ou l'année 40 hein, et le réarmement de l'Italie. Et donc, tout ça, ce n'est pas ignoré de la République française, ils le savent très bien, ils ont des espions partout, hein, on a des renseignements. Et donc, à partir de 1938, eh bien, ça va pousser le gouvernement d'Édouard Daladier à la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre. En juillet 1938, la France sait que la guerre va éclater, et donc on met le paquet hein, pour relancer l'industrie. C'est trop tard, mais on met le paquet. Daladier, c'est lui, tout sourire en train de signer la main de Adolf Hitler, quand en 1938, il va à Munich, vous savez, signer les accords qui permettront le démembrement de la Tchécoslovaquie. Mais dans un coin de la tête, il sait déjà que ça ne sert à rien et que ça mènera à la guerre. Hein. Vous connaissez bien la réaction, selon ce qu'a dit Sartre, hein, qui était du voyage, puis Sartre faisait partie du voyage à Munich. Quand Daladier est rentré à l'aéroport du Bourget, à Paris après les accords de Munich, et que tout le monde l'a acclamé, il dit « viennent me lyncher », et pas du tout, il sort, tout le monde crie et dit « c'est la paix », et là la réaction de Daladier est de dire « ah, les cons !» Ils auraient compris, hein. Parce qu'il le sait dans un coin de la tête, hein, qu'il y a, le péril va se réaliser. Donc la loi du 11 juillet 1938, pour revenir à elle, cible les métaux stratégiques indispensables à l'aviation, avec un droit de réquisition de l'outil industriel, et la réquisition des personnes, ainsi que le contrôle des stocks et de la distribution, en particulier pour empêcher la vente à l'étranger, cela va de soi. Alors, consécutive à cette loi, évidemment, revenons à Venton, hein, apparaît la décision d'agrandissement de l'usine d'aluminium par la construction d'une nouvelle halle, un nouveau hangar que vous voyez. Alors, il y a une petite triche ici, hein, parce que la photo est de 1949, elle n'est pas tout à fait de la période de la guerre, mais ça donne une idée de ce que ça pouvait représenter, même si les cuves étaient un petit peu plus complexes. Hein. Ça, c'est les cuves de cette période-là. Cette nouvelle halle est parallèle à l'Arly. Elle s'appelle donc Venton 2. Et elle est composée de 52 cuves Soderbergh qui pouvaient produire 3000 tonnes par an supplémentaires. En voici le plan. Donc vous voyez Venton 1 à gauche, c'est le petit atelier, hein, et Venton 2, c'est l'immense hall avec toutes les cuves qui sont dessinées, alignées comme des petits pains, hein, les uns à la suite des autres. Pour stocker l'aluminium, sont construits de grands magasins, ainsi qu'un réservoir de 360 m3 pour l'eau sur le canal L'Allier, qui est juste à côté. Une sous-station électrique avec trois redresseurs mutateurs pour faire du courant continu pour ces cuves, parce qu'on passe de l'alternatif au continu. Un nouveau four mélangeur de 15 tonnes. Les ateliers annexes sont dotés de machines-outils. Tout ce que vous voyez dans la partie haute du plan, hein, ce sont des ateliers qui permettaient de produire des équerres et d'usiner. Ce qui est très intéressant d'usiner sur place, parce qu'on va reprendre tous les déchets qu'on va refondre. Donc dans les comptes, on a la refonte de tous ces déchets. Venton 2 est inauguré le 25 octobre 1938. La première coulée, ce n'est pas l'inauguration, je me suis trompé, c'est la première coulée, 25 octobre 38, donc vous voyez, c'est vraiment consécutif à l'accélération des productions. C'est aussi à cette époque que l'on commence à documenter scientifiquement les impacts des fumées de l'usine, sur la fluorose en particulier, qui est la maladie des bestiaux atteints par le fluor et dégagé dans l'air. Et donc, on va créer les premiers filtres d'épuration. Là, vous avez les filtres de type OSCI qui vont être installés sur les cheminées. Bon, ça, c'est une petite anecdote, mais voilà. Le 3 février 1939, il y aura l'inauguration officielle avec la présence de l'armée, qui est effectuée par le conseil aussi d'administration avec M. Panvin, Mathieu, Gall, Perrin, Lamy, Barbier, le directeur Mignot, qui va bientôt laisser sa place parce qu'il va être mobilisé comme officier, et de nombreuses personnalités de l'électrochimie. Le chantier aura coûté 4,5 millions de francs. Francs or, hein, à l'époque. Hein. Donc pour vous dire, l'équipement de pointe, on parle d'équipement de pointe, des technologies de pointe. Alors, anecdotique mais amusant, on possède le menu de fête signé des administrateurs et des ouvriers présents. Hein. Alors, vous voyez que ce jour-là, donc il y avait de la truite de l'Arly, il y avait du poulet façon indienne, des fromages locaux assortis, enfin, il y avait une salade américaine, enfin, il y avait de tout. Hein. Il y avait, le menu était mondial pour l'époque. Avec la déclaration de guerre, le décret du 1er septembre 1939 suspend les cartels de l'aluminium. L'État contrôle totalement les stocks et le ministère de l'Armement subordonne la production des usines, avec au ministère Raoul Dautry. La priorité absolue étant alors la construction d'avions de guerre. Et c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième phase de production. Donc, je vais montrer dans le graphique, hein, on remonte du bas vers le haut toujours. Et vous voyez qu'à partir de décembre 1938, mise en route de Venton 2, et donc on a les 400 tonnes à 500 tonnes produits par mois, hein, ce qui veut dire trois fois la production de l'usine de Venton 1 des années 1936. Il faut savoir qu'il y aura 54 cuves en 1938, 88 en 1940, 114 en 1942, dans un beau effort collaborationniste. Le 15 novembre 1939, on met ainsi en service l'extension du hall de Venton 2, ça sera Venton 3, cette fois-ci, hein, que vous voyez à l'écran, avec un four mélangeur dit Gotashi. Mais la multiplication des cuves ne peut pas être indéfinie. Il y a de nombreux incidents sur les mutateurs électriques qui abaissent la production. Ça disjoncte, en gros, hein, faut imaginer, parce que toutes ces cuves sont montées en série. Et il manque de l'énergie. Les cuves de Venton 1 sont trop anciennes. Elles sont donc arrêtées en février 1940. Et comme on ne sait pas quoi faire du vieux matériel, ben on envoie tout ça dans une vieille usine. On a tout envoyé ça à Prémont, en Maurienne. Et puis, limitant la production, il y a le manque de main-d'œuvre dans cette période, qui est vraiment problématique. Malgré le statut d'affecté spécial, de nombreux ouvriers ont été mobilisés. Ils sont très nombreux à être mobilisés, dont le directeur Mignot lui-même, je vous l'ai dit, hein, remplacé par Chalamon, puis par Alexis Bouchard, directeur par intérim. L'usine emploie une communauté grandissante de 210 ouvriers. C'est pour ça qu'il va falloir construire des cités pendant la Seconde Guerre mondiale pour les loger. Et puis, comme il n'y a pas assez de main-d'œuvre, on va recourir au CTE. Donc le CTE, ce sont les compagnies de travailleurs étrangers. Là, vous les voyez en train de construire la route du col de la Madeleine, sur l'image. Ce sont des réfugiés républicains espagnols qui sont en grande partie stockés à Albertville et qui vont être employés aux basses œuvres de l'usine, c'est-à-dire on les envoie dans les crassiers, à piquer les cuves, à récupérer les boulettes d'aluminium pour ensuite les refondre. Donc tout le sale boulot leur a été confié. La difficulté semble être aussi l'exportation vers les clients dans cette période, parce qu'on produit trop. Et la voie ferrée n'est pas adaptée. Vous voyez, la République a tout fait pour produire, mais elle n'a rien prévu pour exporter. Donc la demande est importante, mais on constate que les stocks augmentent, peut-être par manque de solutions de transport. Par exemple, en novembre 1939, il y a plus de 63 000 équerres en stock. Il y a un problème, hein, novembre 1939, on devrait les produire à plein régime les avions, donc les équerres sont sur le carreau, hein, pour produire. Puis le stock va disparaître progressivement, mais il faudra 3 mois pour l'écouler. Donc on sent qu'il n'y a pas de train, en fait, qui permette dans le registre, qui permette d'écouler tout ça. Les clients, sur cette période, commencent à changer. Alors, on était d'un catalogue de 20 clients, maintenant on va passer à 80 dans les registres. Donc les clients, vous voyez, ils sont tous sur la gauche à chaque fois qu'on exporte. Hein, vous voyez, elle est sortie, en haut à gauche, c'est marqué. Et puis, il y a en kilos le nombre de tonnes d'aluminium, enfin de kilos, donc en tonnes, hein, il suffit de pousser la virgule vers la gauche de trois rangs. Hein. Donc on a, par exemple, 199 tonnes ou 217 tonnes qui partent à Bruneau, à Orléans. Hein, ce sont des aciéries qui vont utiliser l'aluminium. Alors, je ne vais pas tout vous faire, mais je vais vous donner les expéditions les plus notables. Les lots les plus intéressants partent d'abord aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, mais ils sont fous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils doivent fabriquer des avions et ils envoient l'aluminium dans des bateaux sur l'Atlantique aux États-Unis. En fait, la République française n'a pas l'outil industriel pour produire suffisamment d'avions. Et on a passé des commandes d'avions, donc des P-40 Curtiss, aux États-Unis. Mais évidemment, aux États-Unis, ils n'ont pas l'outil non plus industriel à ce moment-là pour produire suffisamment d'avions et pour les expédier vers la France. Donc en fait, on envoie l'aluminium pour produire des avions américains et récupérer les avions qui, entre nous, vont être produits et arriveront trop tard, puisqu'ils vont arriver en juillet 1940. Enfin, ils ne vont pas arriver du tout, hein. Ils vont être détournés, ils vont partir en Angleterre, ces avions. Que la République française a payé avec de l'or, hein. On l'a payé avec l'or de la Banque de France. Donc, dans le même temps, le moteur de cet avion était intéressant parce qu'il était en grande partie avec des composés en aluminium et il a été fait, un moteur léger, hein, avec des éléments électriques dedans, qui a été fait par l'association entre Merlin-Gérin, donc à Grenoble, et Rolls-Royce. Donc on produisait avec de l'aluminium de Venton aussi des pièces de moteur. Enfin, il y a les commandes de Merlin-Gérin dans le catalogue. Il y a aussi des lots de dizaines de tonnes pour Aubert Duval. Donc c'est une aciérie spécialisée aux Ancises, donc c'est dans le Puy-de-Dôme. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là-bas au milieu? À cet endroit-là, on produisait des plaques de blindage. Là, vous voyez la construction d'un char B1 bis, qui est le principal char lourd de l'armée française de l'époque, ou le char D2, hein, qui était le principal char de bataille. Ou encore, on produisait les vilebrequins et cylindres d'avions, qui devaient être extrêmement résistants. Et les lingots qu'on demandait à l'usine de Venton étaient lingots purs, des lingots purs à 99,9%, hein, vous imaginez l'aluminium le plus pur possible, pour faire le procédé de nitruration, un traitement thermique de la surface qui rend l'acier extrêmement dur et résistant. Les aciers qu'on utilise, c'est encore l'acier qu'on utilise pour faire les chars d'assaut aujourd'hui, c'est l'acier 35 CAD12, hein, dans la nomenclature, qui est fait avec cette partie d'aluminium. Autre acheteur pour l'effort de guerre, les TLH, donc les tréfileries de Dijon, de Pont-de-Cherhuy, filiale des tréfileries du Havre, toutes les deux spécialisées dans la production des tôles et des câbles d'aluminium pour les avions. Mais aussi l'usine cuivre et alliage, située à Ham, dans le département de la Somme, ou encore celle de Cran, près d'Annecy, que vous voyez à l'écran, qui produisait avec l'aluminium des alliages pour la production de munitions. Et ici, tout un tas de batteries de cuisine, parce que ce que vous voyez à l'écran, hein, ce sont des gros disques qui vont produire les batteries de cuisine de l'armée, hein, dont on avait besoin. Hein. Il y a aussi l'usine d'Uralumin de Couzon, située à Rive-de-Gier, dans le Loir, celle de Castel-Sarrazin, qui fabriquait le Duralumin pour les avions, la fonderie Montupet, spécialisée dans le moulage des métaux légers, située à Nogent-sur-Oise, qui a été repliée précipitamment en 1940 à Ussel, en Corrèze. Et c'est l'une des rares fonderies d'aluminium qui existe encore dans notre pays, puisqu'actuellement, c'est Constellium. Et Constellium, c'est l'usine qui fabrique les pièces d'Airbus. Hein. Vous avez tous voyagé dans des Airbus, donc vous avez voyagé, pas avec de l'aluminium de Venton, mais avec une usine qui a démarré grâce à l'aluminium de Venton. Il y a aussi les laminoirs du Dauphiné. Alors ça, c'est anecdotique, mais sachez qu'il y a de l'aluminium dans la célèbre baïonnette du fusil MAS 36, qui porte la lettre T, et la lettre T, c'est les laminoirs du Dauphiné qui sont à Domaine, entreprise Pont-Martin. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'il y en a des quantités astronomiques. Hein. Plus généralement, à partir de mars 1940, avec la montée en puissance de l'industrie de guerre, les commandes vont partout, vers les grands industriels en général. On a Peugeot à Montbéliard, Citroën à Clichy, Renault à Billancourt. Là, j'ai entouré, vous voyez, Citroën à Clichy. Ce qui montre que la reconversion de l'industrie, civile, on produisait des batteries de cuisine ou des voitures, hein, en industrie militaire, a été dans notre pays laborieuse. Quand on envoie tout ça, on est en mai 1940. On est à un mois de la guerre. C'est trop tard. C'est largement trop tard. Il aura fallu plus de 6 mois pour que les commandes d'aluminium indispensables pour les fusées d'obus, hein, voilà, arrivent à Venton et repartent de l'autre côté. Donc en gros, Venton a eu les commandes pour la production des obus chez Peugeot, etc. en mai, et on a envoyé fin juin, voire début juillet, mais c'est trop tard, hein. La défaite a eu lieu en juin 40. C'est trop tard. Donc l'outil n'était pas en place. Incapacité politique de l'époque de la Troisième République de préparer la chose. Alors qu'ils le savaient, ils avaient du temps. Hein. Mais ils ont tardé jusqu'au dernier moment et c'était trop tard. Donc quand la guerre va éclater en mai 1940, la production mensuelle n'excédera pas les 488 tonnes par mois. Si on revient à nos graphiques, hein. Hein, ça ne dépasse pas. On est dans le haut du graphique, vous voyez, on est 1 juin 40, donc dans la partie haute. Avec d'importants taux d'échec. On n'a jamais vu autant de coulées ratées. 61 tonnes de refonte au mois de mai 1940. Ce qui prouve qu'on a essayé de faire du métal à tout prix avec n'importe quoi. Comme des coulures, des chutes d'usinage qui n'étaient peut-être pas forcément nettoyées, des viroles ratées, toujours plus nombreuses dans les comptes. On sent la panique hein, dans le compte, hein, si vous voulez. Cela signifie qu'au moment déjà trop tardif de la mobilisation militaire, la capacité de production d'aluminium était sous tension et incapable de fournir les commandes. En janvier 1940, on compte plus de 18 sociétés qui réclament de l'aluminium en Venton et en vin. Hein, ils n'arrivent pas à avoir... Et les stocks s'accumulent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des stocks, mais ils n'arrivent pas à les écouler. On ne sait pas comment les transporter. C'est symptomatique d'une société en plein déni. On trouve au milieu de tout ça... Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus estomaqué. Des commandes tout à fait curieuses. Voilà, bon, les stocks de l'usine, vous avez là. C'est tout à fait curieux, on est en mai 40 et il y a une commande civile qui est honorée, hein, qui part au milieu de toute la commande de guerre, l'usinage de 10 000 compteurs à gaz pour la ville de Montrouge, qui est dans la banlieue parisienne, périphérique, vous voyez, au sud de Paris, à Montrouge. Donc, ils prennent le temps de faire les 10 000 compteurs à gaz et les compteurs partent en convoi prioritaire pour Montrouge. C'est extraordinaire. Dans un ultime effort, en juin 40, on expédiera plus de 560 tonnes en juin, hein, 560 tonnes, donc ça c'est extraordinaire, plus que la production mensuelle. C'est le moment où vous voyez, là où il y a la flèche, hein, juste au-dessus de la flèche, pardon, hein, on voit un endroit où le trait rouge est un peu plus long que le trait bleu, donc on exporte plus que ce qu'on a produit dans le mois. Sauf qu'évidemment, tout ce qu'on exportait s'est bloqué par la guerre, puisque les Allemands sont allés très vite, hein, ils sont arrivés sur la Loire début juin 1940, et donc, les 21 et 22 juin, les cuves sont arrêtées, une grande partie de l'aluminium qui est expédié commence à revenir en gare de triage d'Albertville. Donc, c'est ce qui est marqué là sur la note. Hein. Tous ces chiffres ici ont été rectifiés par suite de la rentrée des wagons dans la gare d'Albertville. Et puis ensuite, on voit de toute manière que les stocks vont exploser. Si je reviens en arrière, quand on arrive à la fin de l'année 1940, donc entre la chute de la République et le début du régime de Vichy, le trait est énorme, il y a plus de 1500 tonnes sur le carreau hein, qui sont stockées, je ne sais pas où ils devaient le mettre, il y en a partout, hein, à l'intérieur de l'usine, qui attendent, un trésor de guerre qui attend. Donc, ça nous amène à la troisième partie, et au retour de nos registres. Hein, là, voilà. Donc, une usine dans la tourmente, les débuts de la collaboration à partir de juin 1940 et l'année 41, qui est le moment où s'arrête le registre, puisque je vous rappelle que le registre, je dis, c'est arrêté fin janvier, subitement, le 28 janvier 1941. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, c'est un trésor de guerre, hein, cette histoire, parce que, après l'armistice de juin 40, la Savoie se retrouve dans ce qu'on appelle la zone libre. Hein, vous voyez, la France est coupée en deux, donc l'armée allemande occupe la zone nord, et la zone libre est laissée à l'État français, à un gouvernement français qui est en train de se dessiner comme un gouvernement autoritaire et de collaboration, hein, celui du maréchal Pétain. L'usine de Venton n'étant pas encore dans la zone verte que vous voyez, puisque les Italiens n'arriveront qu'à partir du 11 novembre 1942, hein, c'est-à-dire après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, jusqu'à 11 novembre 1942, il n'y a pas d'occupation italienne, et donc on est en zone libre à Venton, et l'usine est libre de produire comme elle veut, hein, si on veut, enfin pour le gouvernement français, mais elle n'est pas censée forcément collaborer à ce moment-là. Mais il y a un trésor. Et donc, il va falloir le gérer. Le régime de Vichy, que vous voyez, le maréchal Pétain, hein, que vous voyez sur cette propagande, entendait réorganiser l'économie, parce que, bon, bah, évidemment, on s'est pris une grosse défaite dans les dents, hein, quand même, et placer la production d'aluminium, un métal de guerre, sous contrôle strict, afin d'approvisionner d'abord ses industries aéronautiques autorisées, parce qu'il faut savoir que la convention d'armistice autorisait le gouvernement français à construire des avions, mais pas en créer de nouveaux. Hein. Et, les avions qui auraient pu nous donner une chance sur le champ de bataille étaient en production au moment où on a perdu la guerre, hein, on a signé l'armistice prématurément. Et en particulier, on construisait un chasseur moderne qui s'appelait le De Wattin 520. Hein, et ce chasseur, on a continué à le produire. Ça a été le principal avion de combat de l'armée d'armistice, comme on l'appelle, hein, l'armée du régime de Vichy. Et c'est le principal appareil militaire qui a équipé les forces françaises libres une fois que l'armée du général de Gaulle s'en sera emparée en Afrique du Nord. Un avion extrêmement performant qui avait à peu près les capacités du Spitfire anglais, hein, qui est l'avion de la victoire en Angleterre. Et donc le régime de Vichy entendait en secret continuer, à la barbe des Allemands, hein, la construction de ces avions, ce qu'il a fait d'ailleurs, et la construction de chars d'assaut cachés à l'occupant. Ce qui a été un peu plus difficile à faire, mais ils en ont caché un petit peu tout de même, surtout en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie. Donc, il y avait ça. Et puis, de l'autre côté, il y avait aussi, pour le régime de Vichy, réorganiser l'industrie parce qu'on devait honorer une dette de guerre très importante. Dans la convention d'armistice, il y avait le remboursement d'une dette de guerre colossale. Hein. Il y avait quelque chose comme 1,5 million de francs or par jour à rembourser à l'Allemagne. Et donc, évidemment, un stock d'aluminium aussi, parce que ça coûte très cher, hein, l'aluminium à ce moment-là, c'est bienvenu. Hein. Donc, on va essayer de mettre ça sous contrôle. Problème, les industriels de l'électrochimie et les Allemands ont devancé Vichy. En effet, l'article 3 de la Convention d'armistice, en juin 1940, hein, celle qui a fait capituler la France, ces articles 3 sont flous. Et prévoit de l'exercice de tous les droits, un exercice de tous les droits par la puissance occupante. C'est-à-dire que l'Allemagne est en mesure, dans la zone libre comme dans la zone occupée, d'exiger des choses, éventuellement des métaux. Les services et les entreprises passent éventuellement sous contrôle allemand ou sous les commandes d'armes de la Wehrmacht, hein, l'armée allemande. De leur côté, nombreuses entreprises françaises, y compris en zone non occupée, prennent d'elles-mêmes l'initiative d'entrer en contact avec les représentants du Reich. Pourquoi pas pour vendre, hein ? Il n'y a pas de petit profit en période de guerre. Hein. Les industriels restent des industriels. Et donc, l'électrochimie est effectivement entrée, parce que le siège est à Paris, hein, est entrée en contact en juin-juillet 40 avec l'occupant, et il y a des accords qui sont passés pour un certain nombre, vous allez voir, de livraison d'aluminium, je vous montrerai comment. Pendant ce temps-là, Vichy entérine dès juillet 1940 le fait accompli, donc c'est-à-dire, les Allemands vont commander un petit peu même en zone libre, et par la loi du 16 août 1940, Vichy va créer les comités d'organisation sous l'égide du ministre René Belin. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ce monsieur, mais bon, pour tout syndicaliste, c'est le renégat absolu, hein, membre de la CGT, un grand cégétiste dans les années 30, hein, membre du Front populaire, et ensuite, qui est passé dans la plus pure collaboration avec les nazis. Hein. René Belin, que vous voyez ici, a supprimé les syndicats en France et les a réorganisés de manière à recenser les matières premières, rationner et répartir les ressources entre les usines, céder la direction à des technocrates favorables au régime de Vichy, tous issus de la grande bourgeoisie, et le tout en supprimant toute forme d'opposition. Donc pour essayer de mettre sous contrôle l'industrie et contrôler les stocks. Donc c'est un jeu à trois, si vous voulez. Il y a l'usine de Venton, ok. Il y a les comités d'organisation de Vichy et il y a les Allemands qui essayent de passer des accords pour essayer de s'emparer des stocks d'aluminium. Les autorités allemandes
classe ainsi comme entreprise Rundstum, je ne sais pas comment on le prononce en allemand, Rundstum, usine d'armement, toutes les entreprises qui les intéressent, dont l'usine de Venton, et qui devra travailler pour rembourser la dette de guerre de la France et aider la machine de guerre allemande. Le directeur par intérim de l'époque, donc c'est Bouchard, est donc sollicité dès août 1940 par les autorités du Reich. En effet, dans la débâcle, des convois entiers d'aluminium à destination du Creusot et de Montbéliard sont restés en gare d'Albertville, ou bien ont été retournés par des entreprises qui ont cessé l'activité, comme les Bruno d'Orléans. Résultat, tout en maintenant une production mensuelle de 300 tonnes, c'est un petit peu baissé, on est en septembre 40, les stocks d'aluminium de Venton vont dépasser, comme je vous ai dit, les 1500 tonnes, c'est la barre la plus grande que vous voyez. Et en dépit de timides expéditions courantes, environ 30 tonnes par mois, comme pour la SNCF à Vitry, les forges de Cran, ou des commandes de tôles d'aluminium, alors ça c'est marrant hein, ce que vous voyez ici, pour les mines d'anthracite des Belleville, 195 kilos est expédié en décembre 40, on n'arrive pas bien à exporter. Donc il va y avoir un moment où il va y avoir le pillage de Venton, hein, où on va s'emparer de tout ce qui existe, et là il y a le rôle ambigu de notre ami Bouchard et de ses joyeux registres. Alors Bouchard, on n'a pas grand chose sur lui, c'est un ingénieur de l'école polytechnique. Il est originaire de la région parisienne. Il est venu, c'est un cadre de l'électrochimie, il est venu de la région parisienne. Il paraît au premier abord un fidèle serviteur zélé de l'État de Vichy, sous-directeur quand Mignot a été mobilisé, Mignot le précédent. Il a pourtant déjà 48 ans, donc c'est un peu une fin de carrière, vous voyez, quand il prend l'intérim. Vous voyez, là, il est assez âgé sur la photo. Zélé, car il veille à maintenir le plus haut niveau de production de l'usine malgré le manque d'alumine, le manque d'électricité. Il est parvenu par tous les expédients à réparer les mutateurs électriques en septembre 1940. Alors on voit des commandes d'huile pour remettre à l'intérieur des transformateurs, surtout à des usines de Maurienne qui les produisent dans le secteur de la chambre. Enfin, c'est la panique. Il essaye de tout faire pour remettre en route au plus vite la production. Et pour vous montrer qu'il était zélé, il limite la situation à la fermeture seulement de 8 cuves. Seulement 8 cuves. Alors on peut se poser la question, on peut pas parler de résistance dans cette période. Déjà, voulait-il honorer les commandes allemandes et c'était déjà un fidèle serviteur des nazis, ou au contraire un fidèle serviteur de Vichy, il a été approché par Vichy et puis il s'est dit il faut produire pour la révolution nationale. Moi, je pense plutôt pour ça, il n'y a rien qui le prouve, il faudrait aller dans sa correspondance privée, on n'a pas trouvé encore. Pourquoi pas compléter tout ça. Mais voilà, on voit qu'il est écartelé et que ce personnage essaye de produire le plus. De ce fait, il maintient le niveau de production à 300-350 tonnes jusqu'en 1941 sans faillir et en trouvant l'alumine nécessaire. On le voit même innover par l'emploi d'une nouvelle poche de 600 kg permettant de couler les cuves tous les 3 jours. On lui doit encore des projets de construction qui montrent le côté un petit peu collaborationniste du personnage, comme les 2 silos de 1200 tonnes d'aluminium, que vous avez peut-être connus, qui étaient au bord de la route, et qui resteront longtemps le symbole de l'usine, qui ont été construits en 1941. Et qui seront donc construits en 1941. Il est aussi à l'origine de tout le confort paternaliste de la future cité Mignot, que vous voyez ici, la cité Mignot, projetant une salle de sport et une piscine, le tout construit tous les deux en 1942. Puis en octobre 1940, on voit apparaître dans les registres Schenker. Octobre 40, juin 40, octobre, il y a 3 mois, il s'est passé l'été après la défaite de la France. Et Schenker, vous connaissez, Schenker Deutsche Bahn, c'est les transports ferroviaires allemands, l'équivalent de la SNCF. Et Schenker, c'est le bras, le fret, le bras logistique du transport des chemins de fer allemands. Donc Schenker Deutsche Bahn, ça existe encore aujourd'hui. C'est l'un des plus grands prestataires de services logistiques au monde. Si vous voulez envoyer de l'aluminium aujourd'hui en Indonésie ou en Chine, vous pouvez, ou l'inverse. Et c'est le bras logistique de l'Allemagne nazie. Schenker va rafler au mois d'octobre 1940 815 tonnes d'aluminium en un mois, provenant de Venton. Alors soit la moitié du stock qui était présent à ce moment-là, sans compter la production. Un défi technique que même la SNCF n'aurait pas pu relever. Mais vous voyez la qualité allemande quand même. Bon, ils avaient les convois prioritaires, etc., sans problème. Les trains à disposition, la collaboration de la SNCF, sans problème pour ça. Donc en octobre 1940, l'Allemagne nazie en effet était engagée dans la bataille d'Angleterre, octobre 40, et avait besoin massif de matières premières pour construire des avions pour la Luftwaffe. Donc la Luftwaffe, l'aviation de guerre allemande. Les stocks deviennent donc une cible prioritaire. En s'appuyant sur des filiales ou des accords forcés avec des transporteurs français, Schenker contrôle tous les contrôles apparents du régime de Vichy pour drainer, voire piller les ressources de la zone sud. Donc, dans les lignes de compte, il y a du Schenker partout. 35, 115, 60. Et ça, ça part tous les jours. Hein. Vous voyez, ça, c'est des lignes. Tous les jours, il y a 115, 65 tonnes qui partent. C'est un train, hein, en fait, hein, qui part à chaque fois. Et là, ça devient intéressant. Au milieu de tout ça, l'entreprise va travailler avec des investisseurs du marché noir. Parce que Schenker n'a pas l'argent pour acheter forcément l'aluminium. Parce que quand même, on l'achète, l'aluminium. Et donc, elle travaille main dans la main avec ce qu'on appelle des bureaux d'achat allemands qui sont situés à l'hôtel Lutetia, le tristement célèbre hôtel Lutetia, où il y a les Gestapo à Paris, hein, si vous connaissez. Et dans l'hôtel Lutetia, il y a une partie bureau d'achat qu'on appelle le bureau Otto, parce qu'il était dirigé par un Allemand qui s'appelait Otto, voilà, ici, Otto Braun. Et ce personnage, au début de la guerre, est très cynique, hein. Le statut des Juifs est à peine voté, enfin, voté même pas, hein, mais a été décrété en France, donc pour exclure les Juifs. Et donc, il s'est mis en rapport avec tous les Juifs de France qui avaient un peu d'argent, en leur disant « Vous avez de l'argent à placer, c'est difficile le temps pour vous, mais achetez donc des stocks d'aluminium. » Et donc, bien sûr, tous ces Juifs n'ont pas été remboursés. Hein. Leur triste sort a été ensuite d'être raflés et de partir vers les camps. Hein. Mais donc, les Allemands, qui n'avaient aucun scrupule, ont mis en rapport des Juifs avec des banques, en fait, hein, pour pomper leur argent et acheter les stocks de toute l'industrie française et les drainer vers l'Allemagne. Et donc, on voit ainsi, dans cette période des bureaux d'achat, que Bouchard s'apprête pour le mois de novembre 1940 à passer un contrat avec un investisseur juif du nom de Solek Tschender, un Polonais, que les nazis l'ont mis en relation avec lui, hein, et avec l'usine. Et donc on en arrive à ce qu'on appelle le coup de Bouchard, hein, et le retour du directeur Mignot dans la fin de l'année 1940 et les fameux stocks d'aluminium. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Solek Schindler ? C'est qu'il achète sur 2 mois 373 puis 454 tonnes d'aluminium, donc presque tout le reste du stock stratégique qui restait à l'intérieur de l'usine. Le personnage, donc non, pas de photo, hein, qui vient de la région parisienne, agit probablement pour placer son argent sur les conseils malveillants des Allemands. En effet, dans la zone libre et occupée, le statut des Juifs vient d'être voté, octobre 1940, et ça vient d'installer la discrimination et la saisie des patrimoines importants des Israélites, des citoyens israélites. Or, en janvier 1941, il apparaît que les marchandises que Solek Schindler a achetées et livrables à l'occupant, donc qui auraient dû passer par Dijon pour aller vers la zone occupée, eh bien, ne sont jamais parvenus. Un peu moins de 1000 tonnes d'aluminium qui se sont évadées dans la nature. Et la note de la SNCF ajoute malicieusement « égaré en gare de Dijon ». Comme si 1000 tonnes d'aluminium avaient pu disparaître comme ça. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'il s'agit d'un détournement orchestré par le régime de Vichy. Peut-être que Vichy a détourné l'aluminium pour le cacher. Peut-être. Peut-être, hein, par les fonctionnaires. Peut-être, tout simplement, c'est parti sous un autre nom vers l'Allemagne et on n'en sait rien pour tromper l'investisseur juif à ce moment-là. Mais en tout cas, qui irait s'en plaindre qu'un investisseur juif a été volé ? L'acheteur est un spéculateur juif. Tout ce qu'à l'époque, on va combattre. Laissez-nous tranquilles, 1941, hein, dit la pub. Qui plus est, un juif dont l'activité pour d'acheter de l'aluminium et des métaux stratégiques, c'est une activité interdite depuis le mois d'octobre. Donc, vous voyez, c'est tout bénéfice pour tout le monde, pour les Allemands, sauf un personnage pour qui il y a des sueurs froides. Ben, c'est Bouchard lui-même, parce qu'on va lui demander de rendre des comptes. Il reste Bouchard. Il prend la fuite dans la nuit du 28 janvier 1941. Parce qu'on vient chercher, la police vient chercher. Abandon de poste, note le registre des présences. Signé ensuite du nom de Chalamont, son adjoint, qui devient directeur intérimaire jusqu'en juin 1941, le retour de Mignot. Alors c'est certainement cette nuit-là que les registres disparaissent avec les noms des acheteurs et les quantités. À cette date, après Chalamont, hein, le directeur Mignot, ingénieur des mines, reviendra de captivité d'Allemagne et reprendra la direction avec l'assentiment du régime de Vichy. Voici Mignot, très jeune, hein, tout en œuvrant pour la productivité de son usine et en organisant la cache clandestine de réfractaires à la Girotte et peut-être les futurs sabotages de l'usine, puisqu'il a mené un double jeu, hein, notre ami Mignot. On ne trouve aucune trace de Bouchard à part son décès en 1949, après-guerre. Mignot meurt prématurément le 5 novembre 1951 à Paris, à l'âge de 43 ans seulement. Il a été directeur de l'usine jusqu'en 1949. Alors, qui de Bouchard ou de Mignot a-t-il fait disparaître le registre ? Est-ce que c'est Bouchard en allant se cacher ? Est-ce que c'est Mignot ou Chalamont, son adjoint, pour protéger Bouchard qui les ont mis de côté ? Peut-être. Peut-être que c'est Mignot lui-même, car en réalité, avec les trois registres que j'ai trouvés ici, j'en ai trouvé un troisième. Et ce registre-là, c'est les registres de production de l'usine de 1944 à 1949, au moment de du redémarrage de l'usine, mais aussi de l'épuration. Et ça, ça sera la conférence de l'année prochaine. Conclusion. L'année prochaine. Ben non, je ne l'ai pas étudié encore, mais il y a des trucs marrants hein, dedans, je vous dis tout de suite. Voici donc une bien singulière histoire, celle de registres cachés puis retrouvés, qui témoigne d'une période bien difficile de notre nation et de notre région. Bien sûr, l'histoire de l'usine du Venton, comme toutes les usines d'aluminium, est riche et beaucoup plus large que cette période allant de 1936 à 1941. Mais en 5 ans, 6 ans presque, elle illustre tous les enjeux de la période. D'abord, l'incapacité de la Troisième République à mettre en ordre la nation pour faire face à la menace. C'est très clair. Ensuite, la très haute technicité de l'aluminium français, un trésor de guerre convoité par les nazis et qui sera retourné contre les alliés dès sa saisie, puisque c'est avec cet aluminium que l'Allemagne va orchestrer la guerre contre l'Angleterre, contre la Russie, contre les États-Unis d'Amérique. Il faut aussi peut-être, avec cette histoire, réévaluer le rôle du Front populaire. Ce Front populaire qui n'a pas été ce gouvernement d'oisifs et de grévistes qu'on veut nous montrer sur CNews ou sur les autres torchons médiatiques. Un gouvernement responsable, visionnaire, qui avait mis en place les conditions du réarmement. Par contre, il faut voir le rôle négatif des gouvernements, de droite cette fois-ci, du gouvernement Daladier, qui en 1938 a lancé l'économie de guerre, quand le pays n'était pas prêt, voire sous-dimensionné ou non mobilisé. Alors, il y a un débat d'historien hein, là-dessus. Hein. Le pays sera mobilisé au printemps 1940, mais c'est trop tard. L'extraordinaire réseau international de nos usines, une quasi-mondialisation avant l'heure, hein, je vous rappelle qu'on envoyait construire des chasseurs en aluminium aux États-Unis, rappelle que les outils industriels et économiques qui ont forgé l'Amérique proviennent d'abord d'Europe, de France, de Maurienne, pourquoi pas, et d'Albertville. Enfin, tout ça nous rappelle les heures sombres de la défaite et surtout les choix individuels difficiles face au régime autoritaire et collaborationniste. Fallait-il résister, collaborer, être attentiste, être fidèle au régime ? Bouchard n'a rien d'un résistant, absolument, hein, si on regarde. Au fond, la question des registres cachés pousse à se poser celle-ci. Dans quelle mesure un acte d'intérêt individuel, Bouchard était obligé de se cacher parce qu'il était compromis, cet acte d'intérêt individuel peut-il compromettre une vie ou une carrière ? Ou un acte d'État, une décision faite par un État, peut compromettre une vie ou toute une carrière ? Bouchard a certainement été patriote, pas résistant, mais patriote. En acceptant la disparition de l'aluminium, promis à un pillage allemand, il a peut-être sauvé de sa destination de l'Allemagne. Peut-être, parce qu'on n'a pas la preuve. Mais à quel prix ? Celui du maintien d'une usine intacte, d'un outil en pleine croissance qui produira 5200 tonnes d'aluminium par an en 1942, avant les sabotages. Hein, l'année 43, c'est l'année des sabotages. Tout ça pour vous dire qu'à l'heure du réarmement, qui est notre en 2026, hein, et de situations comparables à celles des années 30, il est bon de s'interroger sur ce qui rend les nations fortes. Ce n'est pas l'outil qui compte. La France avait l'outil. L'outil était en place. Mais c'était bien la volonté. Je vous remercie de votre attention.
croustillante à propos de l'usine de Saint-Jean. Ah, est-ce qu'il y aurait des indices qui nous disent qu'il y a eu des affaires comme ça?
Alors, l'usine de Saint-Jean, il faut savoir, toutes les archives ont été envoyées à l'IHA, les archives départementales.
Alors voilà, il est probable qu'il existe des comptes de production, mais, et que probablement les stocks d'aluminium ont intéressé les Allemands, mais évidemment je ne me suis pas intéressé à ces questions-là, donc je ne peux pas répondre par l'affirmative. Il est probable que la situation soit à peu près la même.
Ah, bah, à ce moment-là. Le directeur s'est fait torcher, il a reçu Pétain à l'usine, et on voit des photos où il visite Saint-Jean avec des piles d'aluminium de tous les côtés. C'est comme ça. Et l'usine de Venton, elle a fermé en 94, mais elle avait toujours le même bâtiment, elle avait les mêmes silos d'alumine, et pour donner une idée, elle a terminé en 94, elle fabriquait 40 000 tonnes d'aluminium, pour donner une idée, l'usine de Saint-Jean fait 140 000 tonnes. Mais c'était les usines de Prémont, de Venton et l'usine d'alumine de La Barrasse appartenaient au groupe Ugine, qui était concurrent d'aluminium Ugine à l'époque. Et à la fusion de PUK en 71, ils ont fusionné ensemble.
Ils ont fusionné.
Et tu parlais de l'aluminium français qui faisait un peu la pluie et le beau temps. À Maurienne, quand Louis Renault a acheté la chute de Valmeunier et la centrale de la Neuvache, il voulait faire une usine d'aluminium. Mais l'aluminium français lui a proposé des prix très bas pour qu'il ne
fasse pas l'usine. Donc oui, pour répondre à la question, la situation devait être tout à fait comparable. De toute manière, toute l'industrie française a été plus ou moins mise en coupe réglée. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on a le nom de l'homme de paille qui a acheté l'aluminium. Et même si on ne sait pas vraiment où ça s'est égaré, on voit les magouilles. Hein, dans une période très incertaine où le contrôle étatique en zone libre est difficile. Hein, très difficile. Oui.
Comment on peut expliquer, alors que les transports étaient complètement désorganisés, que ces usines soient approvisionnées en alumine?
Alors, il y a eu des priorités, parce que le décret de 1938, le décret d'Aladier, hein, qui met en place la production prioritaire, a fait en sorte qu'entre les usines de production d'alumine à partir de la bauxite dans le Var et les usines des Alpes, il y a une continuité et des convois prioritaires pour les acheminer. Donc, ça c'était en... Comment dire, c'était tout à fait, tout à fait huilé, hein, si on veut. Et quant à la production qui continue juste après la guerre, il faut savoir qu'ils ont eu beaucoup de retours de stocks d'alumine qui se sont perdus de poudre. Hein. Et donc, le silo de 1941, il vient de là. Hein. Ils ne savaient pas où le mettre, cet alumine, donc il a fallu construire une structure qui permette d'accueillir beaucoup plus.
Hein. C'était mis en place comme ça à ce moment-là.
Lorsque vous évoquez effectivement la disparition de ces 10 tonnes d'aluminium, laissant entendre a priori que ce mouchoir, ils auraient caché les mouilles pour faire quoi, ça paraît beaucoup plus logique, vu qu'en plus, en 1941, qu'à Dijon, effectivement, les liens étaient disparus, c'est justement les chemins de fer allemands qui seraient venus pour l'embarquer. Faire quoi sans nous?
Il aurait dit peut-être dans le registre, la SNCF, il aurait vu. Le convoi a été détourné, mais il n'est pas parti. Il n'a pas traversé, si vous voulez, à Dijon, on sait qu'il n'a pas traversé la ligne de démarcation. Donc, on sait qu'il n'est pas parti en Allemagne. Donc, il est forcément resté en zone libre. Donc, à l'époque, le régime de Vichy a fait en sorte, hein, c'était l'idée, hein, de cacher des stocks, ou peut-être de l'envoyer dans d'autres usines, peut-être vers Lannemezan, ou... C'est parti quelque part, mais où? Ça, pour l'instant, c'est impossible de savoir. En tout cas, ça a pas passé le. Ça a disparu en gare de Dijon, ça a pas passé le. Si ça avait passé la ligne de démarcation, on l'aurait su.
Voilà.
On va pas en tout. Mais j'ai pas trouvé la trace. J'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé la trace de ce qui est devenu le convoi. En plus, il n'est pas numéroté, donc on ne sait pas.
C'est sur les autres usines qui fabriquaient l'aluminium, comme en Morienne. On a des registres comparables.
Oh, l'équivalent, hein, je pense. Hein, je pense que c'est l'autorité de Thurérol, mais...
C'est aux archives départementales. Voilà. C'était remis. Quand Trimé a repris l'usine, là, toutes les archives ont été triées et sont parties soit à l'IHA, soit aux archives départementales. Mais ce qui me surprend, c'est que quand Venton a fermé, J'avais un collègue très important, il a pris toutes les archives et les a amenées aux archives départementales. Donc,
il manque que ces registres-là dans la série.
Il manque que ces registres, il a tout le monde envoyé là-bas. Il y avait même deux maquettes de cuves, une cuve Sodemer et une cuve de Prémont, qu'il a remis à l'usine de Saint-Jean.
Il manque juste la série 30-37-49, elle est là. Qu'il faudra replacer, je pense que je vais les donner après pour la replacer dans la série, hein, une fois que j'aurai terminé de travailler dessus. Oui.
Vous êtes tombé dessus par hasard, c'était quand même un peu caché quand vous les avez achetés.
C'était au fond
cette histoire
au fond d'une caisse en plastique. Dans
d'une
brocante.
Famille, d'un monsieur, d'un collectionneur.
Rien du tout, dans une brocante où les gens débarrassent leur grenier.
Ouais. Voilà. Incroyable.
Voilà, dessus.
Donc,
il faut faire les brocantes en fait. Bon, celle-là est à côté de chez moi, donc j'ai la main heureuse.
L'usine de Venton, l'usine de Venton, elle a été arrêtée quand ?
94.
94. En même temps que,
oui,
toutes, les...
que toutes les autres.
Ah, bon. Parce que je pense, je disais, on va la visiter, mais non.
Ah non, non,
non. Il n'y a plus rien.
L'usine de Venton, ça va 94. Et l'usine de Venton avait des spécialités, elle faisait les étoiles de Venton. C'est un genre d'étoiles en lingots. C'était envoyé à l'usine du Gide. Ça permettait de les envoyer à la main dans les fours, où ça s'était percé au milieu, on les mettait sur une tringle, et avec un chariot automoteur, on les mettait dans les fours. C'était spécial. Parce qu'ils étaient très proches du gîte, parce que c'était les mêmes maisons.
L'année prochaine, la suite. Je vous remercie.